cette partie-ci est supposée être plus courte que la première. Je pense que ce sera le cas. On va parcourir quelques minéraux, mais voilà, généralement, ce sont quand même des choses que vous connaissez. Le fer, on parle beaucoup évidemment de déficit, mais vous savez qu'il y a statistiquement plus d'excès que de déficit. Cependant, il y a quand même des déficits et il ne faut pas passer à côté. Donc, globalement, les femmes, les enfants sont plus à risque, les adolescents aussi, les femmes enceintes, les sportifs, hein, vous seriez étonnés, même les hommes, les sportifs de haut niveau hommes, pour des raisons évidentes d'inflammation, eh bien, les hommes ont souvent quand même des petits soucis au niveau de l'absorption du fer, au niveau de... Voilà, donc attention quand même aux sportifs, il faut... aussi bien les regarder. Et puis, ben, vous le savez, le manque de fer est associé, bien entendu, à beaucoup de problèmes de fatigue, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, une grande sensibilité aux infections. Et puis, le fer joue un rôle aussi important dans la santé de la thyroïde. Donc, des femmes, notamment, qui ont parfois des ferritines vraiment basses, peuvent avoir en conséquence des troubles de la thyroïde. Donc surcharge plus fréquente, je l'ai dit, qu'un déficit. Parfois c'est inflammatoire, hein, vous savez donc, mais c'est, je ne vous apprends rien, hein, que la ferritine, évidemment, elle s'élève, et c'est ça son problème, sa faiblesse avec l'inflammation. Notamment dans les problèmes d'obésité, on sait qu'il y a un bruit de fond inflammatoire évident, et donc on a souvent des ferritines supérieures à ce qu'elles devraient être en réalité. Il y a même des études qui disent que la ferritine, c'est plus un marqueur inflammatoire qu'un vrai marqueur intéressant au niveau de l'analyse du fer. J'irai peut-être pas jusque-là, ça reste très intéressant bien sûr, mais voilà, ne prenez pas en tout cas ce dosage au pied de la lettre. Alors, hémochromatose, bien entendu, ça peut arriver, donc, mais on rentre là dans la pathologie. Donc, moi, je suis très, très, vous savez, très. Je renvoie très vite vers le médecin, parce qu'il peut vite vous arriver, évidemment, un souci, mais je pense que vous êtes souvent mis, rappelé à l'ordre, mais qu'on vous le rappelle souvent qu'il ne faut pas se substituer au médecin si vous n'êtes pas médecin. Et essayer de modifier des choses à tout prix peut parfois cacher une pathologie. Et donc, il faut vraiment être très, très prudent et humble avec tout ça. Donc, attention aux surcharges, donc, qui peuvent être inflammatoires, qui peuvent être donc, métaboliques, qui peuvent être liées à l'alcool aussi. Vous avez des femmes, à partir de la ménopause, évidemment, qui vont avoir un taux qui va monter aussi suite à un problème d'excrétion qui ne se passe pas bien. Et donc, voilà, les personnes sont fatiguées souvent. Syndrome métabolique, hein, on sait que la ferritine est associée aussi à de l'insulinorésistance. Tout ce qui est douleur, etc. Donc le dosage, donc la ferritine, c'est une forme de mise en réserve précoce, quand même assez sensible, donc il peut se faire glycémique ou érythrocytaire. Il y a des variations, donc je l'ai dit, attention à l'âge, au sexe, la grossesse, la ménopause, les sportifs, tout ça il faut en tenir compte. Et comme vous le voyez, les valeurs de référence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sont assez larges, entre 20 et 200, donc c'est de 1 à 10, hein, donc c'est vraiment des fourchettes qui sont grandes, et vous le savez aussi, c'est un peu triste, mais vous avez des patientes, souvent, qui sont à 21 en ferritine, et à qui on dit tout va bien, alors qu'elles sont juste crevées, qu'elles prennent du poids, qu'elles sont blanches comme des mortes, et on dit, non, la ferritine, ça va. Bon, ben, clairement, chez ces personnes-là, 21, c'est que ça ne leur suffit pas. Hein, donc, la clinique reste quand même, évidemment, importante. Et donc, les valeurs souhaitables, elles sont un petit peu empiriques, hein, elles sont pas, elles viennent pas d'études, ou les valeurs souhaitables, ça tourne donc entre 50 et 80, puisque bien sûr, vous le savez, un excès de fer, c'est pro-oxydant, donc ce n'est pas souhaitable non plus. Donc, pour se faire une bonne idée, une idée complète donc, du statut en fer, on va compléter ce dosage, notamment avec le coefficient de saturation de la transférine. Donc on va demander, alors le fer, c'est, on peut le faire bien sûr, mais c'est pas aujourd'hui très relevant. On va demander bien sûr la ferritine, Et puis, donc, ce fameux coefficient de saturation de la transférine, on va le voir ensemble. On peut demander aussi le récepteur soluble de la transférine et, fatalement, les protéines de l'inflammation. Alors, à quoi ça sert de compléter la demande de ferritine ? Eh bien, c'est justement pour ne pas passer à côté d'une fausse ferritine, c'est-à-dire une ferritine qui aurait été augmentée par de l'inflammation. Donc, reflet du statut en fer ou non, la ferritine, quand c'est bas, c'est évidemment bas, donc c'est très intéressant. Après, potentiellement, vous pouvez avoir une ferritine à 25 et avec un petit bruit de fond inflammatoire, et en fait, votre patiente, elle était à 7. Hein. Donc, on voit que quand même, cette ferritine, quand c'est très bas, de toute façon, on peut évidemment tirer la conclusion qu'il y a quelque chose à faire. Donc, l'inflammation va la faire monter. Donc, je l'ai dit, il peut y avoir des problèmes d'hémolyse, la grossesse, les sportifs, l'alcool, des problèmes d'hyperthyroïdie. On a des fluctuations sur 24 heures qui sont aussi relevées. Donc, il ne faut pas prendre ce dosage de la ferritine au pied de la lettre de façon absolue, mais il reste intéressant, bien entendu. Le dosage se fait à jeun, avant tout traitement, mais ça, je pense que ça va l'air clair. Donc ça, ce sont les valeurs que le laboratoire propose, qui vous permettent voilà, de vous faire une idée un petit peu de la situation. Ça va dépendre aussi des personnes. On considère qu'une femme enceinte, par exemple, devrait commencer une grossesse autour de 100 en ferritine, ce qui n'est jamais, jamais le cas. Donc voilà, en fonction du patient, on doit aussi adapter un petit peu nos recommandations. Donc le fer, on l'a dit, dosé comme ça, il a peu d'intérêt. La ferritine, donc, c'est le reflet de nos réserves, hein, principalement. La transférine, c'est la protéine qui transporte le fer. Le pourcentage de saturation, son nom le dit bien, hein, saturation de la transférine, on va essayer de tourner à peu près autour de 30%. Alors j'ai vu tout à l'heure dans le document, et c'est là la difficulté, et pourtant c'est vrai, ce qui est indiqué, hémochromatose à partir de 45% point d'interrogation. J'ai déjà vu des saturations à 42% sans hémochromatose. Donc encore une fois, ne faites pas donc le patient il peut juste ne rien avoir, il ne faut jamais prendre ces valeurs totalement au pied de la lettre, mais c'est vrai que ça peut à partir de 45% interpeller. Donc globalement, quand vous avez une ferritine basse avec une saturation basse et une transférine élevée, on va plutôt envisager donc le déficit, et il y aura un excès quand la ferritine est élevée, une saturation élevée et la transférine basse. Okay ? Alors donc, je vous ai parlé aussi du récepteur soluble de la transférine. En fait, lui, il joue un rôle dans l'internalisation, donc dans la cellule du fer liée à la transférine. Donc c'est quelque chose qui peut aussi être intéressant. Et donc, vous l'aurez compris, la saturation et le récepteur soluble, leur intérêt, c'est justement de ne pas varier avec l'inflammation. Hein, et donc, ça vous permet d'avoir un vrai reflet du statut en fer. Donc, ferritine, soit elle est élevée, et vous l'avez vu, alors c'est qu'il y a ou un excès, ou de l'inflammation, ou une pathologie, soit elle est basse, et on ne peut pas se tromper, bien entendu. La transférine, donc elle peut être élevée en cas de déficit en fer, mais aussi en cas de grossesse ou prise de pilule, donc toujours bien exclure ça évidemment, et elle peut être basse en cas de surcharge en fer, d'inflammation ou de problèmes plus pathologiques. Donc, le récepteur soluble de la transférine, lui, il va augmenter en cas de déficit, mais il ne va pas monter en cas d'inflammation. Donc, c'est ça qui est intéressant. Hein, donc, ça permet vraiment de vous faire une idée de la situation réelle donc, du patient. Et puis, il y a un dernier dosage qui peut être intéressant quand on recherche, vraiment, quand on ne comprend pas pourquoi il y a un problème de fer, l'hepcidine. En fait, l'hepcidine, son rôle, c'est vraiment de bloquer la ferroportine et donc d'empêcher l'accumulation du fer, puisque vous savez, le fer en excès, c'est pas bon, c'est pro-oxydant, bien entendu. Donc, il va bloquer l'absorption du fer au niveau intestinal, au niveau de l'entérocyte, et vraiment le séquestrer dans les macrophages. Et donc, cette hepcidine, en cas de surcharge en fer, va augmenter. C'est une protéine qui est produite par le foie et qui va être éliminée. Donc, on peut la doser. Ça a un coût. Ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui remboursé. Alors, le zinc, rapidement, pourquoi le doser ? Ben, on connaît son importance pour la production de l'insuline, dans tout ce qui est cognition, dépression, immunité. Donc le zinc reste quand même un minéral vraiment majeur, comme antioxydant aussi, comme cofacteur. Dans la fertilité, il est aussi important. Qu'est-ce qu'on demande ? Ben, c'est vrai que le zinc sérique, c'est celui qui est le plus utilisé dans la littérature. Le laboratoire propose aussi de faire un dosage au niveau des érythrocytes, donc c'est un petit peu plus le reflet du stock, hein, parce que finalement, il y a beaucoup de zinc qui ne circule pas, donc ça permet quand même parfois de se faire une meilleure idée. Donc on va viser évidemment les valeurs normales, et on va adapter aussi les quantités, donc c'est toujours à ça que ça sert, donc il n'y a rien de très différent de ce que vous connaissez, hein, par rapport aux zinc. Donc vous avez ici les valeurs de référence, les valeurs souhaitées. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans un état léger de déficit. Et donc, comme je vous le disais, le zinc érythrocytaire, il peut avoir tout son intérêt puisque on a quand même une grosse partie du zinc dans le corps qui se trouve dans les érythrocytes. Et là aussi, c'est vrai qu'on fait les prises de sang en général le matin, mais il peut y avoir des variations sur 24 heures qui sont tout à fait normales chez nos patients. Alors, l'iode, qui manque d'iode, presque tout le monde, hein, ça a été clairement mis en avant, et c'est la raison pour laquelle non seulement le sel iodé a été créé, hein, il n'est pas obligatoire, mais il est utilisé en Belgique dans le pain, ça c'est super, parce qu'en France c'est pas le cas, donc c'est vraiment en France, s'il y a bien des grands consommateurs de pain, c'est bien eux, donc il y a plus de déficit dans certains pays que dans d'autres, donc l'iode c'est vraiment quelque chose de très important. On a toujours, à juste titre, associé l'iode à la santé de la thyroïde. Et en fait, aujourd'hui, on découvre qu'on a des récepteurs à l'iode un peu partout dans le corps, et même au niveau du sein, etc. Et il y a des papiers qui commencent à sortir vraiment sur le lien entre déficit en iode et cancer du sein. Donc c'est vraiment quelque chose à suivre. Il y a des livres notamment sur l'iode. Attention aux excès, puisqu'un excès d'iode bloque aussi potentiellement la thyroïde. Donc élargir un petit peu notre champ de vision par rapport à l'iode. C'est pas que la thyroïde, l'iode. Donc c'est vraiment un dosage important. Alors comment le doser ? Alors ça c'est le grand débat. Très franchement, quand vous faites un dosage urinaire, c'est le reflet globalement de l'alimentation de la veille. On va pas se leurrer. C'est pas un reflet du stock en iode. Donc si vous avez un patient qui s'est enfilé 200 grammes de tartare d'algues de la veille, il y a quand même a priori beaucoup de chances que son iode soit dans les valeurs, hein, et que peut-être 360 jours par an, il n'y est pas. Okay ? Parce qu'il avait juste envie de découvrir ce que ça faisait. Donc toujours interroger quand même aussi les patients sur ce qu'ils ont mangé la veille. Si l'alimentation est comme d'habitude, ça peut être intéressant. Plus précis, dans les urines de 24 heures, ça c'est clair. Personnellement, moi, les urines de 12 heures, je m'en méfie un peu, sauf pour les métabolites. Oui, bon, c'est plus facile. Si vous avez des patients, alors c'est plus difficile d'expliquer quand ça commence, quand ça finit, est-ce que je fais le jour, la nuit, machin, oui, mais j'ai pas bu. Ah, voilà, je trouve que le taux d'erreur est un petit peu plus élevé. 24 heures, c'est aussi contraignant, hein, bien entendu, mais c'est vrai que voilà, dans la littérature, on retrouve première urine du matin ou urine de 24 heures le plus souvent. C'est plus fiable, urine de 24 heures, ça reste le reflet quand même de l'alimentation aussi. Hein, donc, encore une fois, pas prendre nécessairement au pied de la lettre. Donc, bien consommer, bien contrôler l'alimentation de nos patients. Donc, le dosage se fait ou sanguin ou urinaire, voilà, urine du matin ou 24 heures. Vous avez les valeurs souhaitées, hein, et donc ce n'est pas un reflet des réserves, comme je l'ai dit. Donc, moi, il y a beaucoup de débats sur quel sel choisir, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que souvent, plutôt que de partir dans des sels un peu exotiques qui coûtent très cher, qui sont peut-être très bien et qui souvent ne contiennent pas d'iode, je préfère proposer un simple sel iodé. Donc attention, les TSH un peu subcliniques aussi, ça peut souvent venir d'un problème d'iode. Pollution, ben, tout, demain, tout secrétaire, la thyroïde. Hein.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc, très, film très intéressant, un peu anxiogène, mais voilà, demain, tout secrétaire, vous pouvez le googler et le regarder. C'est... Alors, le sélénium, bien sûr, son rôle le plus connu, c'est d'être un antioxydant. Mais il a aussi bien sûr de nombreux autres rôles. Il est impliqué dans la détoxification hépatique et bien sûr c'est le cofacteur de la 5' d'iodase qui nous permet de fabriquer des hormones T3 et donc pour notre thyroïde il est absolument incontournable. Vous le savez, de très nombreux antioxydants en excès sont potentiellement dangereux, d'où la question: c'est quoi un excès? Donc ça, je vous invite éventuellement, parce que sinon c'est tellement long, vous avez quand même des documents, notamment de l'ANSES en France, qui sont extrêmement bien faits, hein, qui vous donnent les doses à risque. Alors ça ne parle pas trop de dosage malheureusement, mais vous avez dans les recommandations, hein, vous tapez ANSES, repère nutritionnel, et vous avez pour toutes les vitamines et tous les minéraux, les niveaux minimum, maximum à donner, alors, et sur quoi ils se sont appuyés pour ça. Donc ça, c'est bien par rapport notamment aux compléments alimentaires.
La question n'était pas tellement...
Mais je comprends la question, c'était dans le dosage. Voilà. Non, mais ça, j'ai bien compris, et ça n'existe pas. Et pourquoi ça n'existe pas, à votre avis? Parce que c'est différent pour tout le monde. Oui, mais donc, voilà, à partir de quand... on peut considérer qu'un dosage est franchement trop haut. Hein, ça varie d'un nutriment à l'autre. Donc je ne peux pas vous dire quand c'est le double, attention. Donc ça c'est. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a beaucoup pour lesquels on peut quand même faire attention. Vous savez, bêta-carotène, le fer, le sélénium. Enfin, il y en a plein. Même des folates en excès, c'est pas bon. Hein, donc on sait que ça augmente aussi le risque de cancer. Donc il faut. Bien sûr, ces analyses, elles sont là pour ça aussi. Maintenant, quand on est 10, 20, vous allez voir qu'il y a quand même toujours des fourchettes de sécurité. Hein. Donc si on est 10, 20% au-dessus, il ne faut pas paniquer, il faut essayer de comprendre si c'est par l'alimentation. En général, moi, je ne suis pas très inquiète. Par contre, si c'est suite à une supplémentation, alors il faut quand même commencer à dire on va se calmer. Hein. Donc vous avez parfois des iodes très élevées, vous avez des patients. Moi, je trouve que le sélénium, il a vraiment cette image d'antioxydant absolu dans la population, typiquement qui n'est pas suivie par un nutrithérapeute ou un médecin. Et du coup, il y a des gens qui prennent... Moi, je reconnais plein du sélénium. Hein, c'est bien le sélénium. Mais non, donc, fatalement, trop de sélénium, c'est pro-oxydant. Donc, les dosages sont toujours intéressants à faire aussi pour recadrer. J'attire aussi votre attention sur le fait que parfois, on donne un complément sans savoir qu'il y a autre chose dedans. Et quand vous faites le cumul, vous vous retrouvez avec des méga-doses. Hein. Moi, j'ai déjà eu comme ça des gens qui s'auto-complémentent. Pas qui s'auto-complimentent, hein, mais qui s'auto-complémentent. Et qui prennent, j'ai notamment un patient, c'était fou, hein, c'était un truc, la prostate, un truc pour la peau, un truc pour le soleil, un truc pour les cheveux, un truc. Et puis addition, tac, il était, je sais pas, 15 fois la dose de sélénium, quoi. Donc, je dis quand même, ça c'est vraiment dangereux, donc c'est intéressant de regarder. Et puis justement, un dosage peut bien mettre en avant ce genre d'excès. Donc ni trop ni trop peu, particulièrement par rapport au sélénium. Donc, le dosage, il est très fiable. Hein, donc, le but, c'est vraiment là, d'être dans les normes et de ne pas dépasser. Sincèrement, avant de dépasser, rien qu'avec l'alimentation, les valeurs en sélénium, je ne pense pas que j'ai déjà été confrontée à ça dans les prises de sang, hein, parce que c'est souvent quand même très bas. Et il faut déjà en manger, hein, des noix du Brésil, hein, pour s'exploser en sélénium. Hein. Donc c'est quand même très souvent en excès des gens qui prennent des compléments alimentaires. Donc dans le sérum, donc c'est très fiable, et donc on l'a dit, le sélénium, il est très important à doser, notamment en cas de, enfin, pour l'activité de la glutathion peroxydase et de diverses enzymes dont j'ai parlé, notamment la delta 6 des saturases, etc. Donc, c'est avec le zinc, quand même, le magnésium, il est très important. Donc voilà, vous avez les valeurs ici sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vitamine D, ça aussi, c'est des choses que vous connaissez. On ne va pas passer 2 heures là-dessus. Pratiquement 100% de taux non optimal dans la population, s'il n'y a pas de prise de complément alimentaire. Ça arrive, des gens qui ont un bon taux de vitamine D sans rien prendre, assez étonnamment. On en rencontre parfois, des gens qui sont tout le temps dehors, en short, qui font leur potager, ou qui vivent au soleil et qui ne sont pas blonds. Mais donc ça concerne quand même une petite partie de la population. Donc vitamine D, très importante, vous le savez, ce n'est pas que les os. Là aussi, le dosage, il est ce qu'il est. Alors j'ai rajouté quelques dias aussi sur la vitamine D. Vitamine D, donc, pour son rôle dans l'immunité, le cerveau, l'intestin, la sensibilité à l'insuline. Connaissez les valeurs habituelles. En général, là aussi, dès que le patient est au-dessus de 30 nanogrammes par millilitre, le médecin a plutôt tendance à lui dire « super, c'est bon hein, », puisque les valeurs officielles, c'est entre 30 et 60. Globalement, on a plutôt intérêt à tourner autour de 50, 60 que de 30. Et quand on dépasse et qu'on atteint les 100, 150, on va commencer quand même un peu à calmer et certainement pas au-delà de 250, là ça devient vraiment inquiétant, hein. Mais voilà, donc on va associer souvent d'ailleurs cette vitamine D, il ne faut pas l'oublier, non seulement avec la vitamine K, mais aussi avec du magnésium. Donc les rôles, c'est tout ce qui est métabolisme phosphocalcique, donc en prévention de l'ostéoporose, enfin en fait la vitamine D, vous la dosez chez tout le monde, hein. Ça c'est vraiment un basique, mais donc elle a un rôle dans les cancers, l'insulinorésistance, la fibromyalgie. Elle est anti-inflammatoire, c'est vraiment publié. Elle joue un rôle dans les dépressions, tout ce qui est cognition et l'immunité. Et donc voilà, ça aussi, souvent, les médecins ont tendance à penser, c'est pas publié, vitamine D, c'est à la mode, et tout. Bah, non, c'est pas vraiment à la mode, et si, c'est publié. Hein, y a un paquet d'études, mais vraiment un paquet d'études qui montrent le lien entre statut en vitamine D et toutes les pathologies qui sont reprises ici, hein, donc jusqu'à l'hypertension, etc., les chutes, hein, chez les chutes chez la personne âgée, les premières causes de chute, c'est un manque de vitamine D. C'est un peu con, hein, quand même. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'études, et notamment, je vais vous montrer ceci, c'est vraiment intéressant, où ils ont montré la baisse du risque de développer la pathologie en fonction du taux sanguin. Hein, et on voit quand même que globalement, on tourne plus autour des 50, hein, et qu'on a vraiment un effet sur, comme je l'ai dit, les problèmes cardiovasculaires, les chutes, cancer, tout type de cancer, même diabète de type 1, donc immunité, etc. Donc on voit bien que si on reste aux recommandations classiques basses qui sont de 30, eh bien, on a des risques bien plus importants que si on passe à 50, 60. Donc il ne faut pas se contenter pour nos patients de tourner autour du 30. Donc l'idéal, c'est d'être entre 50, 60, 70. Et puis certains papiers disent que voilà, pour le cancer, quand on doit le traiter véritablement, ou les maladies vraiment cardiovasculaires, on peut même monter un petit peu. Attention bien sûr aux calcifications, hein. C'est aussi pour ça, avec le calcium, surtout des apports importants en calcium, bien veiller à ce qu'il y ait des apports en vitamine K qui évitent justement les calcifications. Donc magnésium, vitamine K, vitamine D et calcium, c'est vraiment les quatre nutriments intéressants et importants. Alors il y avait une question, mais je ne suis pas certaine de l'avoir bien comprise dans la liste, où on demandait la différence entre bêta-lactoglobuline et alpha-lactoglobuline au niveau des dosages.
Oui, parce que dans les propositions, il y avait cette possibilité-là.
Donc dans le lait, il y a plusieurs protéines, hein, il y a la caséine, vous avez la bêta-lactoglobuline et l'alpha-lactalbumine. Les deux plus problématiques, clairement, c'est caséine et bêta-lactoglobuline. Okay. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'allergie à l'alpha-lactalbumine. Okay. Mais sachez de toute façon que déjà dans le lait maternel, il n'y a pas de bêta-lactoglobuline, ce qui montre déjà le côté non physiologique. Donc dans le lait maternel, c'est plutôt d'alpha-lactalbumine. Donc voilà, je voulais juste, je n'étais pas sûre de la question, donc j'ai juste fait une petite dia là-dessus. Alors, un petit mot sur la thyroïde, puisque c'était la question comment on peut évaluer aussi correctement le statut de la thyroïde. Donc juste rappeler que c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire qui est évidemment responsable de la production des hormones thyroïdiennes à la base. en tout cas par la thyroïde. Donc l'hypothalamus va produire la TRH, ce qui va pousser l'hypophyse à faire de la TSH, ce qui va pousser la thyroïde à produire les hormones thyroïdiennes, T1, T2, qui vont s'associer et qui vont former donc T4, qui va se transformer en 3. Il y a une petite partie de T3 qui est produite, donc 20% à peu près, qui est produite directement par la thyroïde. Et donc, après, le foie, surtout, et un petit peu le rein, vont donc transformer cette T4 en T3. Aujourd'hui, classiquement, évaluation de la santé thyroïdienne, TSH, déjà. Donc, en général, la plupart du temps, le médecin ne va demander que la TSH. Or, on sait très bien qu'il peut y avoir plein de problèmes de thyroïde avec une TSH ou normale ou un petit peu limite. Ou, hein, là aussi, les valeurs officielles de la TSH, c'est entre 0,3 et 4,5. Donc là, on va de 1 à 18, hein, quand même, hein, en termes de... Donc on comprend bien que c'est quand même un petit peu large. Certains pays proposent plutôt de considérer 2,5 comme une TSH maximale. Donc, à vous de sentir, surtout au niveau de la clinique, hein, c'est encore une fois, c'est ça qui va... Moi, je trouve toujours dommage d'avoir des patientes qui vous disent « j'ai pris du poids, je ne comprends pas, et je perds mes cheveux, elle est toute blanche, elle est fatiguée, elle est constipée, elle est frileuse, elle a tout. Hein. » Et elle a une TSH à 3,5, et vous lui dites « et la thyroïde, ça va ?» On a contrôlé la thyroïde, tout va bien. Et vous savez, vous, pertinemment bien, que ça ne va pas bien, d'accord ? Donc il faut évidemment essayer d'inviter le médecin à approfondir un petit peu les analyses. Donc ça, c'est juste une diade pour rappeler. En général, on ne dose pas la TRH, hein, mais donc on peut évidemment doser la TSH. On va, bien sûr, ça ne se fait jamais, hein, doser l'iode urinaire, on en a parlé. On va... dans la mesure du possible, demander T3 et T4, T4 et T3 ici, mais vous savez que le patient, il doit payer un supplément si le médecin a demandé deux. Donc, le plus souvent, le médecin ne demande que la TSH. Parfois, vous avez TSH T4, mais en général, ça s'arrête là. C'est rarissime que la T3 soit demandée. Or, si vous avez une patiente qui, par exemple, manque de sélénium et de zinc, eh bien, elle ne pourra pas faire fonctionner ses enzymes de conversion donc de T4 en T3, et donc à ce moment-là, elle peut avoir une TSH qui est plus ou moins normale, voire un tout petit peu élevée, T4 qui a l'air plus ou moins correct, et une T3 qui est effondrée. Et vous pouvez même avoir des valeurs qui sont normales pour tout et des problèmes de thyroïde, ok ? Parce qu'on a des récepteurs qui ne fonctionnent pas bien, parce que les hormones ne rentrent pas dans le noyau, notamment, je ne l'ai pas mis ici, je pense, mais la vitamine A, elle est très importante aussi pour la santé de la thyroïde. Donc on voit bien que c'est complexe et que pour avoir vraiment une idée globale, il faut voir l'âge. Peut-être que je vous l'ai mis ici. Donc, pour évaluer le fonctionnement de la thyroïde, on a évidemment la TSH. À partir de 2, on peut commencer à lever le sourcil et se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème ? À l'inverse, vous pouvez avoir une TSH à 3 et votre patiente qui pète la forme. Hein, okay ? Donc, on n'est pas obligé d'essayer de la convaincre, sa thyroïde ne va pas bien parce que sa TSH est à 3. Donc, c'est la clinique qui va vraiment nous guider. Alors, ce qui est possible aussi quand on a un doute et qui est assez intéressant, c'est d'évaluer dans les urines de 24 heures les hormones thyroïdiennes T4 et T3. Ça ment quand même beaucoup moins qu'un dosage sanguin. Maintenant, voilà, 24 heures d'urine, c'est pas toujours simple à faire. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est parfois un peu rock'n'roll, hein, quand même, parce que c'est, déjà, c'est mieux de rester chez soi. Parce que quand même, c'est des grands bidons de 2,5 litres, c'est pas hyper discret à mettre en poche. Et puis en plus, même chez vous, vous êtes très pressé, vous courez et vous dites « Merde, j'ai oublié ». Donc vous pouvez tout recommencer après. Donc parce qu'évidemment, ça doit être assez bien fait. Et donc c'est sûr que c'est pas toujours le plus simple, mais ça peut être intéressant quand on a vraiment un doute. Donc vous avez ici tous les dosages des hormones thyroïdiennes et vous avez aussi la T3 reverse, qui est une T3 inactive. En fait, elle n'est pas inactive, elle bloque carrément les récepteurs de la T3, donc elle est vraiment problématique. C'est une forme, cette T3 reverse, de sécurité. Notre corps est très très bien fait, c'est-à-dire qu'en cas d'excès de T4, pour ne pas avoir une hyperthyroïdie, le corps est capable de fabriquer une forme de T3 qui ne fonctionne pas et de ralentir le système. Donc c'est assez magique, sauf que pour des raisons qu'on ne maîtrise pas entièrement, mais qui sont liées notamment au stress, mais pas que, on sait que certaines personnes vont fabriquer un petit peu trop de T3 reverse. Alors, ce qui n'est pratiquement jamais fait, mais qui est quand même très... Enfin, que je vous encourage vraiment à demander, tout ça c'est remboursé, c'est l'évaluation de l'auto-immunité. Vous avez des patients qui ont a priori des valeurs de TSH, de T4, de T3 dans les normes, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez, si vous dosez ces auto-anticorps, vous allez voir qu'ils dysfonctionnent relativement souvent. Et ben, parfois, il y a des médecins qui, même en voyant les valeurs, disent « Non, mais c'est pas grave, il y en a beaucoup. » Il y en a beaucoup, mais ça dépend un peu de combien il dépasse. Donc, vous pouvez demander les anticorps anti-TPO, comme on les appelle. Vous pouvez demander les anticorps anti-thyroglobuline. Okay, donc, ce sont toutes ces enzymes qui permettent donc la production des hormones thyroïdiennes. Et puis, alors ça, je pense que ce n'est pas proposé, mais sachez qu'on peut aussi fabriquer des anticorps anti-récepteurs de la TSH. Et des anticorps carrément anti-T3 et anti-T4. Donc ça, c'est techniquement, je pense pas encore des choses qui soient possibles aujourd'hui, mais je vous le dis parce que peut-être un jour, ce le sera. Donc un petit mot sur cette T3 reverse dont je vous ai parlé. Donc elle est fabriquée, la T3 reverse, par la thyroïde, mais elle peut aussi venir de la T4. Elle bloque donc véritablement l'action de la T3. Et donc voilà, le stress... Donc ça concerne quand même pas mal de gens, donc le stress, des déficits, l'inflammation, les maladies chroniques, surpoids, insulino-résistance, les métaux lourds, trop de café, d'alcool, de tabac, certains médicaments et un excès d'iode. C'est notamment ce qui fait qu'un excès d'iode bloque la thyroïde. Donc on voit que c'est quand même intéressant à évaluer. Alors les auto-anticorps anti-thyroperoxydase, donc comme leur nom l'indique, ils s'attaquent à la thyroperoxydase, dont le rôle est de transformer les iodures en iodes. Donc c'est le plus intéressant, surtout pour tout ce qui concerne les Hashimoto. Donc ça, c'est vraiment le dosage le plus important. Et ça concerne quand même souvent 10% des femmes, 30% des hommes. Alors, donc ils sont plus vite élevés que les antithyroglobulines. Donc ils sont, c'est intéressant aussi de les doser pour ça. Donc dans certaines pathologies, ils vont s'élever, notamment en cas de cancer de la thyroïde. Et donc ce n'est pas évidemment à vous de rechercher après, dès qu'il y a des auto-anticorps, hop, ça doit être réflexe, envoyer tout de suite, bien sûr, chez un endocrinologue. Ils peuvent parfois être élevés en début de grossesse, ce qui va signer un risque plus élevé de thyroïdite du postpartum. Et puis voilà, toute une série de pathologies quand même dans lesquelles c'est plus élevé. Donc c'est évidemment tout de suite à envoyer chez un médecin, comme je l'ai dit. Les antithyroglobulines s'attaquent à la thyroglobuline. C'est une protéine donc, qui est associée à l'iode que l'on stocke dans la thyroïde. Et là, on va plutôt doser dans le traitement cancer de la thyroïde. Donc en général, ça nous concerne nettement moins. Dans les maladies auto-immunes, ça peut être intéressant, mais c'est moins fiable. Donc, des deux, moi, je préfère clairement les anti-TPO. C'est, comme je l'ai dit, plus fiable. Donc, par rapport à la thyroïde, si vous voulez vraiment... Si vous avez une suspicion, on n'est pas obligé de ratisser. On a dit tout à l'heure, c'est quand même des années... On a besoin du médecin. Si vous avez plus de chances que votre médecin accepte vos... proposition de dosage, si vous avez 5 demandes ou 10 demandes, que si vous en avez 200 avec une liste, on va dire, vous êtes gentil. Bon. Donc, c'est vraiment quand vous avez une suspicion de problème de thyroïde. Donc là, on va demander tout ce qui est iode. On peut demander aussi tout ce qui est, évidemment, santé cardiovasculaire, le stress, les 17-OH stéroïdes urinaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis voilà, tous les cofacteurs et les nutriments qui interviennent donc dans la santé de la thyroïde. Et n'oubliez pas la vitamine A, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de vitamine A. même parfois chez des personnes qui ont un bêta-carotène élevé, hein, vous allez voir ça assez souvent, un excès de bêta-carotène bloque la transformation de bêta-carotène en vitamine A. Okay, donc les grands buveurs de jus de légumes, etc., ont souvent une vitamine A plutôt basse. Donc là, on va faire manger un petit foie de morue, ce qui ne passe pas toujours, mais, ou du foie en général. Hein. Le foie de morue, c'est l'aliment qui contient tout ce dont la thyroïde a besoin. Bon, aussi les métaux lourds. Mais on n'en a pas tant besoin. Mais voilà, à part ça, non mais c'est vrai, il y a l'iode, il y a les oméga 3, il y a de la vitamine D, il y a de la vitamine A, le foie de morue, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc voilà, ça c'était pour la thyroïde. Et puis pour terminer, je pense, ou pas d'ailleurs, non, l'insulino-résistance, parce que ça fait là. Ah oui, je voulais vous dire un petit mot, parce que ça avait été demandé sur le TMAO. Donc TMAO, c'est une molécule qui vient de la conversion du TMA par certaines souches, donc conversion au niveau hépatique du TMA en TMAO, mais donc formation de ce TMA au niveau digestif par notre microbiote suite à la consommation choline, phosphatidylcholine, L-carnitine. Donc il y a un risque aujourd'hui clairement associé avec un TMAO élevé d'AVC, mais il y a un fort lien, une forte corrélation avec le diabète de type 2. Et c'est aussi pour ça que le laboratoire a dit « Bon, mais à quoi ça sert de doser le TMAO ?» De toute façon, tout le monde a intérêt à manger moins de viande. Donc, voilà. Et en général, quand il y a un diabète de type 2, on le sait. Donc, voilà. Après, donc, cette analyse n'est pas proposée pour l'instant par le laboratoire. Mais voilà, dans la littérature, il y a en effet des études qui montrent que ça peut être un problème de santé potentiel, notamment même par rapport au cancer colorectal du sein. Mais souvent, ça signe donc une surconsommation de viande, et cet TMAO est plus souvent élevé chez les diabétiques de type 2. Donc ce sont des choses qu'on peut savoir autrement.
Et c'est quoi le lien ?
Quoi ça ?
Entre diabète de type 2 et TMAO élevé ?
Attends, ah ben c'est l'insulinorésistance, c'est tout ce qui est inflammation. Donc c'est le microbiote qui augmente de toute façon le risque de diabète de type 2. Donc c'est microbiote déséquilibré et formation de TMA. Donc il y a vraiment des liens qui ont été établis. Donc à partir du moment où on sait que c'est des mangeurs de viande qui sont diabétiques de type 2 ou insulino-résistants, est-ce que doser ce TMAO est vraiment utile ? Voilà, mais ça c'est la position du labo aujourd'hui que je comprends parfaitement. Le but étant évidemment que les analyses qu'on fait, surtout si c'est pas remboursé et que ça coûte de l'argent, nous aident véritablement dans nos prescriptions. Quoi. Et donc enfin, je pense que c'est les dernières diapos, mais c'est des choses que vous connaissez, mais ça faisait partie des questions. Le OMA, est-ce que pour tout le monde ou pas, hein, le OMA c'est quelque chose que vous utilisez, que vous connaissez, ou est-ce qu'il y a encore des questions par rapport au OMA ? C'est certainement la chose la plus facile à utiliser, la plus utile à utiliser dans notre quotidien. C'est la chose aussi la plus facile à prouver, entre guillemets, à un médecin. Hein, si vous devez convaincre, entre guillemets, un médecin du bien fondé des choses que vous faites, il est très très difficile, voire impossible, de remettre en cause l'utilité du dosage, enfin pas du dosage, parce que c'est pas un dosage, vous le savez, mais du calcul de ce OMA. Okay ? Or aujourd'hui, en pratique courante, statistiquement, il va y avoir 1% de médecins généralistes peut-être qui demandent l'insuline, pas beaucoup plus. Hein. L'insuline à jeun, c'est vraiment la fête. Hein. Quand je vois un patient où j'ai une glycémie et une insuline, et alors c'est carrément Byzance quand le OMA a été calculé. Quoi. Donc c'est vraiment très très rare. Donc ça, c'est des petites choses par lesquelles vous pouvez commencer et qui vont vous mettre dans une relation de confiance aussi avec le médecin, hein, parce que c'est facile, vous savez, ça m'aide dans ma prise en charge pour telle et telle et telle raison. C'est publié des centaines de fois, hein, l'utilisation du OMA. Okay ? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Le OMA est élevé, parfois, alors que la glycémie est normale, mais complètement normale, hein, même parfois en dessous de 90, on sait que l'insulinorésistance, elle démarre, entre guillemets, jusque 12 ans avant le diabète. Donc vous imaginez un peu la prévention que vous pouvez faire avec ces patients. Et donc c'est vraiment triste, je trouve, aujourd'hui, d'avoir un patient qui à 100, avec une glycémie déjà à 100, 110, on a dit tout va bien, et puis du jour au lendemain, on lui dit, c'est bête, vous êtes diabétique, et après ça devient beaucoup plus compliqué. Hein. On peut vraiment faire une bonne prévention. Oui.
Ça ne peut pas remplacer le test pour les diabètes gestationnels.
Alors, ça ne va pas le remplacer. Si, ça pourrait le remplacer, mais c'est le triangle de la glycémie, sincèrement, il est encore un tout petit peu plus précis, mais qu'est-ce que c'est horrible, quoi. C'est-à-dire que, il faut se les boire, hein, ces boissons. Hein. Il y en a, ils font presque des malaises après. Hein. Donc, pour être tout à fait honnête, c'est un petit peu plus précis le triangle de la glycémie que le haut-bas. Ok, mais ici, c'est vraiment pour typiquement le patient qui dit, mais je fais tout ce que vous dites et je perds pas, et qui a un peu de gras au niveau du ventre, etc. Et vous, d'avance, vous savez qu'il est insulino résistant, mais ça permet, d'abord ça, c'est remboursé. Ça permet vraiment de mettre en avant le problème d'insulino-résistance et de le confronter. Ça vous permet de jouer bien les boules gentiment. Et, parce qu'il y en a, ils vous regardent quand même. Tout d'un coup, ils entendent beaucoup mieux hein, ce que vous leur dites. Hein. Donc, c'est quand même, je trouve, pour ça assez intéressant. Et puis aussi, par rapport au médecin, après, vous voyez, il est insulino-résistant. Donc, c'est vraiment pour moi. Le top numéro 1, les choses que vous devez faire en perte de poids notamment. Oui.
J'ai parlé avec un médecin il y a une semaine à peu près, parce que je fais des prises de sang, on a fait une formation sur le diabète et on leur a demandé de faire beaucoup plus justement de tests d'AGPO sur 2 heures voire 3 heures. Donc il est venu en labo, il m'a dit je veux voir à quoi ça ressemble. À la sortie, il m'a dit je ne le ferai pas faire parce que effectivement les gens se sentent mal. Et je lui ai dit encore, vous ne savez pas, quand les femmes enceintes viennent le faire, 2 fois sur 3, elle vomit, c'est sûr qu'elle est vite.
Mais c'est horrible ce test.
C'est horrible.
Je sais pas, il y a celui qui l'a
inventé, il l'a
jamais
fait,
je crois. Et en plus, j'imagine que ça m'en sera, on prend 75 grammes de glucose comme ça d'un coup.
Non, mais c'est bam, quoi. Je sais pas, il faut se boire déjà 3 canettes de coca. Enfin, c'est...
Ça doit être un stress aussi.
C'est clair. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais, on va... Voilà, les perfectionnistes vont dire, oui, mais c'est moins précis, c'est vrai. Vous pouvez pas dire, c'est pas vrai, c'est vrai. Parce que vous avez du coup une échelle de temps que vous n'avez pas avec le haut main. Alors, le cutie, on peut aussi le faire. Le cutie, il sort des clous un peu avant le haut main. Donc, il est même un petit peu plus sensible. Hein. Donc, vous allez d'abord avoir le patient qui a fatalement l'échelle la plus grande aussi. Hein. Donc, vous savez, les normes du cutie, c'est entre 0,34 et 0,41, donc c'est quand même assez serré, et le HOMA 0,74 à 2,26. Là aussi, vous allez voir certains labos vous dire, non, un HOMA jusqu'au 3, c'est bon. Voilà, si vous voulez vraiment être dans la prévention, sincèrement, à 2,2, déjà, vous vous dites, ça commence à sentir l'insulino-résistance. Donc, en général, moi, je fais les deux, de toute façon, c'est gratuit. Ben, je ne sais pas pourquoi je vous parle, parce qu'en fait, j'ai plein d'IA, je crois, là-dessus. Mais, donc, les marqueurs conventionnels, aujourd'hui, c'est que la glycémie, hein, l'insuline. Alors, l'insuline toute seule, ça ne sert à rien non plus. Hein. Vous dites, à partir de demain, je fais que l'insuline. Donc, sans les deux, vous ne pouvez pas calculer le HOMA et le QI. Donc, le calcul est différent, mais on utilise et la glycémie et l'insuline pour calculer HOMA et QI. Donc, voilà, moi, en général, je fais les deux, parce que c'est gratuit. D'accord, c'est gratuit. Hein. Donc, franchement, je ne vois pas pourquoi on se priverait. Hein. Donc, si vous n'avez que la glycémie et que l'insuline, et vous voulez vous amuser à calculer, allez-y. Ceci dit, c'est gratuit. Donc, pourquoi se gêner? Mais par contre, non, mais sérieusement, vous avez parfois, votre patient, il vient avec sa prise de sang, et par miracle, le médecin a demandé glycémie et insuline. Et donc, vous pouvez le calculer vous-même, soit avec les formules, mais c'est un peu arrache-cheveux, soit vous allez vous googler calculateur HOMA, et en fait, vous rentrez les données, et paf, il vous sort le HOMA, le QI. Donc, sur Internet, il y a plein de calculateurs qui sont assez faciles à utiliser, et qui sont gratuits. Donc, alors, évidemment, pas trop faire attention la veille. C'est complètement débile, mais parfois, vraiment, j'en ai des patients qui, avant une prise de sang, pendant 24 heures, ils ne mangent plus. C'est ridicule, quoi. Il n'y a qu'eux qui trompent en faisant ça. Hein. Donc, quand même, dites-leur, manger normalement, ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc, voilà, Oma Kriki. Et donc, je vous ai donné les valeurs, mais vous les avez entre 0,74 et 0,26, 0,35 à 0,41. Donc, si vous faites les deux, vous allez voir que vous pouvez avoir un patient qui va être à 0,34 en QT, donc sortir des normes, mais son OMA, il est encore... Bon, il sera à 2,20, hein, mais son OMA est encore dans les valeurs. Donc, voilà.
Oui. Et donc, en QT, en fait, la norme supérieure n'est pas très utile. J'ai plusieurs personnes, en fait, quand la glycémie est vraiment... très bonne, hein. Elle est plus vers le bas en plus, et l'insuline est aussi très bonne, ben le cookie,
il est super, hein.
Donc on ne s'accorde pas que
ça. Ah ben non.
Parce que ça se rendra, mais...
Oui, mais bien sûr, il y a toujours des normes. C'est-à-dire qu'ils ont... Attention quand même, parce que certains patients ont une sensibilité incroyable au niveau de l'insuline, eh bien, ils peuvent aussi faire des hypoglycémies.
Ce n'était pas des hypoglycémies, c'était des glycémies avant la fête.
Voilà. Et donc, voilà. Et là, super. Donc, soit ils n'ont pas mangé pendant deux jours avant de faire la prise de sang, hein, et ils ont couru en plus. Donc, voilà. Mais soit ils ont vraiment une très bonne sensibilité de l'insuline, et ça m'est arrivé d'avoir vraiment des patients qui ont une sensibilité d'insuline tellement bonne qu'ils font des hypoglycémies. C'est-à-dire que ça marche tellement bien, donc ça peut, c'est très rare, mais ça m'est déjà arrivé deux, trois fois. Donc retenez-le, ça peut, c'est des cas qui peuvent se présenter.
Juste un mot par rapport à Kriki et Oma. Je lisais un article hier ou avant-hier où il semblerait que le Kriki soit plus relevant par rapport à l'Oma, simplement parce qu'on passe par des valeurs logarithmiques, et donc du coup on a moins de variabilité comparé au Oma.
De toute façon, les deux sont liés. Vous n'aurez jamais, jamais un QI pas bon et un OMA super bon. Ça ne va pas arriver. Mais donc, par contre, le QI est un petit peu plus sensible et donc est encore un marqueur un petit peu plus précoce. Mais voilà, les deux sont intéressants. Donc voilà, l'objectif, repérer l'insulinorésistance, ça permet vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est ce qui change le plus la pratique aujourd'hui. N'utilisez pas ça, je pense que vous passez à côté de beaucoup de problèmes et que vous compliquez la vie aussi dans la prise en charge.
Moi, j'ai juste une question peut-être plutôt Elian. J'ai souvent, quand je fais des demandes et que c'est chez SimLab, la valeur de référence, maintenant j'ai pas toujours une échelle, on va dire c'est souvent simplement en dessous d'un point 8 ou en dessous de 2, mais est-ce que ça varie aussi en fonction de l'âge, parce que j'ai pas toujours les mêmes références.
Non, mais je peux demander.
Oui.
Je peux demander.
Ah oui, j'en ai plusieurs et je me suis vraiment posé la question, je m'étais dit. J'allais regarder.
Les références.
Oui, parfois il écrit idéalement en dessous d'un point 8. J'ai vraiment ma flèche. Parfois il écrit en dessous de 2.2.
Pour le haut.
Oui.
Parce que normalement, c'est les valeurs.
Mais c'est vrai que je regarde.
À mon avis, c'est pas le haut, si je peux.
Ok, je vais regarder.
Je pense pas que ce soit le haut.
Si c'est le haut, pas dans différents là-bas.
Ou alors c'est peut-être un autre là. Mais du coup, ce serait pas un point 8, parce qu'en général, chez SimLab, ils sont plutôt plus stricts que les autres. Donc, c'est pour ça que je vous dis, parfois, vous allez voir 3 dans la littérature. Ils considèrent que 3, ça démarre vraiment l'insulino-résistance. Mais... Donc, voilà, risque de diabète. Je pense que je vous ai dit tout ce qui était intéressant. Mais bien sûr, l'insulino-résistance, ce n'est pas juste un peu de gras sur le ventre. Hein, c'est lié à un risque cardiovasculaire. C'est lié... aux maladies métaboliques, l'insulino-résistance, ça joue sur la cognition, etc. Donc tout ça est vraiment validé. L'infertilité aussi, hein, très important, notamment par le biais du syndrome des ovaires polykystiques. On sait qu'il y a un lien entre OMA élevé et risque de syndrome des ovaires polykystiques, et donc pas d'infertilité, mais de moins bonne fertilité, hein, on va dire ça. Et donc. Ça doit vraiment rester à votre esprit cette notion d'insulino-résistance parce que c'est vraiment important. Et on est arrivé au bout, je pense, dans les temps. Mais si vous avez des questions, elles sont les bienvenues.
Oui. J'ai une question. Pendant cette maturation, on a fait des études. Une caritimie qui est trop basse, mais on a un fer sérique qui est vraiment très très haut.
Le fer sérique, on s'en fiche.
Même s'il y a plus de 2 ans, la personne est en déficit.
Voilà. Je vais beaucoup plus regarder, par contre, le coefficient de saturation.
Mais le coefficient de saturation, il est aussi...
Il est bas ou il est bon? Eh bien, alors ça veut dire qu'il ne faut pas donner du fer.
Oui. Et ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas de...
Ah ben, ça veut dire que la personne ne va pas nécessairement le stocker, mais qu'elle a suffisamment au quotidien pour avoir... Donc attention, hein, une ferritine basse, mais souvent, ce n'est pas des patients fatigués, ça. Ce n'est pas des patients qui ont des symptômes de manque en fer. Hein, voilà. Alors ça peut avoir... parfois, on me demande aussi pourquoi la vitamine D ne monte pas. Le fer est aussi impliqué. On sait que les cytochromes P450 sont fer dépendantes. Et pour activer la vitamine D, il faut du fer. Donc quand on donne la vitamine D classique et qu'elle ne monte pas, c'est aussi un manque de fer. Mais souvent, quand la saturation est élevée, c'est que le patient, il a ce dont il a besoin. Donc n'allez pas redonner en fer.
Il y a quelque chose du fer.
Oui, c'est génétique, hein, souvent.
Mais de quoi ça casse
pas. Même beaucoup de choses génétiques aussi. Il y avait d'autres questions sur le
fond. Oui. Par rapport à la vitamine D, je
parce que la vitamine D, elle est très importante pour la santé des os et musculaire. Et donc, en fait, et musculaire. Donc, la fonction musculaire est très fortement influencée par la vitamine D. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de chutes chez la personne âgée.
Des entités PO, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles ils pourraient éventuellement se
lever ? Il y a mille raisons. Il y a mille raisons. Le microbiote, les perturbateurs endocriniens. On sait aujourd'hui qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Il y a plus de nodules. La thyroïde, elle trinque hein, aujourd'hui. Hein, dans la... et donc, vous voyez, plus de maladies auto-immunes et d'auto-immunité. Ce n'est pas toujours à traiter, mais de toute façon, c'est directement médecin. Quoi. Que ça, il ne faut vraiment pas... Bien sûr, le stress, est un... le cortisol est un vrai souci pour la
thyroïde.
Si c'est élevé, mais je ne sais pas peut-être vous êtes médecin, non, bah alors si c'est élevé, vous envoyez chez le médecin. Vous ne vous dites pas, on attend 3 mois et on voit 12. Parce que si vous passez à côté d'un truc, c'est... Alors ça dépend élevé et élevé, quoi. Si c'est 10 fois au-dessus, voilà, ça c'est. Enfin, je comprends que les médecins ne s'inquiètent pas trop, il y a quand même des coups. Donc en effet, 3 mois on observe. C'est pas qu'il est en train de mourir sur place, quoi. Ok, donc mais c'est vraiment même ça, voilà. Mais lui il est médecin, donc c'est sa responsabilité. C'est juste pour souligner que quand vous avez vraiment des signes comme ça de maladies auto-immunes potentielles, il faut vraiment envoyer. Oui.
Les
LDL oxydés
très élevés, c'est
dû
uniquement à un mode de vie
pas
correct.
Malheureusement pas. Il y a des causes génétiques aussi. Ben, moi, j'essaye quand même toujours de les faire baisser. Je trouve que dans ma pratique, c'est ce qui est le plus difficile à changer. C'est faire baisser des anticorps anti-LDL oxydés. On y arrive, hein. On y arrive. Comme le dosage vous dit maximum, enfin au-delà de 1200, ben, vous ne savez pas si votre patient il est à 100 000 ou à 1300. Donc parfois, tout ce que vous faites est bien, mais c'est quand même toujours trop. Et donc vous ne voyez pas l'évolution. Mais dites-vous bien que s'il est hyperoxydé, de toute façon, lui donner des polyphénols et des choses comme ça, il ne faut pas lui faire du tort. Hein, et modifier son alimentation. Mais voilà, on peut doser qu'à partir d'un certain niveau. Mais ça m'est arrivé de passer de plus de 1200 à 700, 600. Parfois, la prise en charge... Elle fonctionne. Mais ça, c'est souvent dans les cas pas génétiques, justement. Oui.
C'est possible de voir des valeurs négatives dans une prise de...
Mais là, on est aussi dans la pathologie. Hein. On est dans l'hyper qui a dit, là, on ne discute pas, hop, on en voit tout de suite. Mais oui, c'est possible. Ou en tout cas, si ce n'est pas négatif, ils vous disent non dosable, par exemple.
Et de toute façon, vous n'avez même pas envoyé chez le médecin, puisque... Si vous êtes phytothérapeute, le médecin a reçu la prise de sang, donc vous ne pouvez même pas regarder normalement ça. Donc, c'est conseillé d'aller voir son médecin par rapport à ça. Normalement, il doit avoir vu son médecin une fois et il vient avec une copie. Donc, normalement, vous ne recevrez jamais la prise de sang tout seul. Ça sera le médecin traitant qui a mis son cachet, qui va recevoir la biologie. Et lui, s'il veut une TSH négative, c'est son devoir aussi de contacter son médecin, de son patient, et dire qu'il y a un souci là. Et quand il viendra avec la biologie et vous aurez la copie, ben là, moi, je dis à mon passeur, je regarde, moi, ce qui me concerne d'un point de vue nutritionnel pour vous aider au niveau de votre plan alimentaire. Et quand ça relève de pathologies comme ça, tu dis, ben là, allez bien voir vos médecins, parce que là, ce n'est pas de mon ressort. Là, on est, voilà. Parce qu'ils vont vous demander, ça arrive très souvent, ils vont venir avec leur prise de sang, regarder un petit peu, et vous demander d'abord, tiens, votre médecin a déjà vu cette prise de sang. Ah non, ben, déjà aller la lui montrer, et parce que des fois, il dit, oui, mais il ne m'a pas bien expliqué tout ça, vous pouvez des fois être pris en porte-à-faux, et vouloir faire plaisir, hein, parce que ça part des fois d'une bonne intention, et puis on vous reproche parce que vous ne savez pas comment le patient va expliquer à votre médecin, parce que vous, vous avez peut-être bien expliqué, mais le patient n'a peut-être pas tout compris. Il va aller voir son médecin, j'ai été voir le nutrithérapeute, il m'a dit que j'étais en hypothyroïdie. Mais non, attends, qu'est-ce qu'il raconte et tout ça. Et c'est là, des fois, c'est là qu'il faut être prudent. Et comme Véronique l'a dit, renvoyer chez le médecin. Mais normalement, si on découvre une biologie qui ne va pas du tout, la logique veut que normalement le médecin traitant ait reçu la biologie. Quand on envoie le papier, quand on donne ce papier que vous allez recevoir au patient, c'est pour le donner aussi à son médecin et il coche ce qu'il souhaite cocher. C'est, nous, c'est jamais que des...
Mais bon, attention aussi, c'est tout à fait vrai, hein, mais ça peut arriver si vous travaillez avec un médecin qui vous fait confiance et que c'est vous qui avez demandé éventuellement... un truc que le médecin ne regarde pas. Donc contrôlez quand même toujours, est-ce que vous avez montré ça à votre médecin, est-ce que vous en avez parlé avec votre médecin. Mais vraiment, je vous invite à être, parce que sinon vous pouvez avoir des vrais problèmes graves, hein, si un jour vous êtes confronté, si on est non médecin, on est non médecin, et c'est important que chacun dans la pérennité garde son rôle et sa place.
Et vous aurez aussi des patients qui viennent avec une demande de biologie, donc ils ont été, je sais pas, chez leur gynéco, ils ont été, ils vont vous demander, tiens, est-ce que tu peux cocher ce qui nous manque? Parce que, tiens, on va demander l'hommage, et je comprends le passé, il ne va pas faire deux prises de sang. Il se dit, ben, j'étais chez ma gynéco, on va faire ça, ça. Vous ne le faites jamais, c'est vrai? Parce que ça, vous pourriez... Alors, si le patient a envie de le faire, moi, j'ai dit, ben, ok, vous pouvez suggérer, mais téléphoner à votre médecin, que ce, je suggère qu'on demande l'adexoma, par exemple, et là, ben, le médecin, par téléphone, donne son acceptation, mais sinon, ne faites jamais la croix vous-même, parce que ça... Alors, dans 90% des cas, le médecin ne dira rien, mais vous allez peut-être tomber sur un médecin un peu frustré, qui ne connaît pas, qui a des a priori, et là, il va vous rappeler, non. Mais c'est des choses, des fois, pour... Et ça partira toujours d'une bonne intention de votre part, ça sera le but de faire plaisir des fois aux patients, de dire, ben voilà, mais c'est comme ça que vous pouvez avoir des ennuis.
Moi, je viens de discuter avec quelqu'un qui me disait que quand certaines biologies sont faites dans certains hôpitaux, en tout cas à Namur, comme ils sont débordés, quand les valeurs sont normales, ils n'envoient même plus les résultats.
C'est un droit pour le patient.
Tout à fait, tout à fait. Hein, mais c'est arrivé à une collègue qui dit, ben, je l'ai pas reçu. Donc, ben, voilà, c'est normal.
Mais ça, quand vous voulez avoir une prise de sang et que votre patient vous dit, mais non, toute la prise de sang est bonne, tout est normal, ben, vous pouvez dire aussi, ben, la normalité n'est peut-être pas forcément, on n'a pas la même échelle de valeurs. C'est normal, vous ne souffrez pas d'une pathologie parce que la biologie l'aurait décelé, ou une carence. Mais par contre, pour optimaliser votre thyroïde, ben voilà, on a besoin peut-être de valeurs. Vous avez la carence en vitamine D, vous allez à valeur optimale. Nous, on cherche à atteindre la valeur optimale. Donc, et ça, vous justifiez. Parce que et ne vous trompez pas dans les termes, parce que si vous dites à votre patient, vous êtes carencé en vitamine D, et qu'elle répète ça à son médecin, ben non, vous n'êtes pas carencé en vitamine D. Et elle a raison. Non, vous avez... Mais on a vu que dans les études, une valeur optimale, et comme vous venez me voir pour durer, être en bonne santé sur le long terme, la valeur de prévention santé, c'est entre 40 et 60. Okay. Et vous voyez, c'est d'expliquer, n'hésitez pas à expliquer au patient, parce que des fois, vous serez surpris de ce qu'il va répéter au médecin, et c'est là que vous dites, mais non, je ne vous ai pas expliqué ça comme ça. Et ce n'est pas en cause de la mauvaise volonté du patient vis-à-vis de vous. Hein, et c'est pour ça qu'il faut être clair. Et avec le papier qu'on a mis au point, ben, ça sera déjà beaucoup plus clair. Hein.
Il n'y a pas de... Nos capacités d'absorption sont vraiment tellement personnelles qu'il n'y a pas de réponse, malheureusement. Il faut contrôler, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est moins bien.
Pour les enfants, pour les bébés, on ne peut pas avoir les enfants.
Vous respectez les recommandations et on part du principe que ça devrait aller. Pas toujours ça. Très pitié des bébés.
Mais est-ce que ce n'était pas plutôt quand on avait que la D2 végétale et maintenant on a la D3 végétale, est-ce qu'elle n'est pas aussi bien assimilée?
Il y a quand même une différence. Il y en a qui ne veulent que ça. Hein, donc. Mais vous allez toujours rencontrer des gens qui répondent super bien à une supplémentation et d'autres qui ne comprennent pas pourquoi. Donc, il y a tellement de différences de compliance, hein, déjà. mais d'absorption, de, voilà, de digestion, de métabolisation, de tout ce que vous voulez, que très difficile de se dire. J'ai des profils très différents, donner la même chose, et il y en a un, il va se retrouver que sa vitamine D à 70 en 3 mois, et l'autre, il est passé de 32 à 35. Quoi. Il dit, mais si, je l'ai pris. Donc, pas toujours. C'est quoi ? Oui, et il faut pas croire qu'on n'a pas besoin d'iode, hein. Surtout, hein, c'est une grande erreur. Hein. Donc l'iode est toujours importante, même quand on n'a plus de thyroïde. Ils sont de toute façon importants pour d'autres choses. Hein. Donc en fait, l'iode est connu surtout pour la thyroïde, donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, mais il faut donner l'iode, mais tous les autres, ils sont importants pour tellement d'autres choses que de toute façon, on a intérêt à clairement... Et puis ça dépend quel est le traitement. Hein, si on ne soit que de la D4, on peut aussi la transformer, hein, de toute façon. Merci.